Le livre de Job, mystère de la souffrance. Étude biblique pour l'année 2020-2021 de l'Église protestante unie de l'ensemble Centre-Hérault. Par le pasteur Jean-Paul Nunez. Aujourd'hui, le chapitre 3. Trois amis de Job entendent parler de son malheur. Ils viennent chacun de son pays. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua, Tsophar de Nahama. Ils décident ensemble de le plaindre, de le consoler. Ils l'aperçoivent de loin. Ils ne le reconnaissent pas. Ils s'exclament, ils pleurent, ils déchirent leurs vêtements. Ils se jettent de la poussière sur la tête. Ils s'assoient avec lui par terre. Ils restent 7 jours et 7 nuits. Ils ne lui disent pas un mot. Ils voient qu'il souffre beaucoup. Voilà donc les trois amis qui viennent chez Job. En hébreu, il y a trois termes pour désigner l'ami. Or, ici, c'est celui qui est le moins fort des trois qui est employé. C'est le mot qu'utilise la Bible dans le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans Lévitique 19-18. Et généralement, le mot est traduit par « prochain ». Il aurait mieux valu le traduire par « autrui ». Tu aimeras autrui, ou plutôt tu aimeras ton autrui comme toi-même. Autrui, c'est celui qui n'est pas notre semblable. C'est celui qui est autre que nous-mêmes. Et derrière cette expression que nous traduisons par « prochain », au fond, la Bible nous signale qu'il faut mettre une certaine distance, méfier de celui qui, ici, dans le livre de Job, est traduit par « ami ». Aimer qui nous ressemble, c'est facile. Par contre, si nous apprenons à aimer autrui, nous allons changer considérablement un certain nombre de choses dans le monde, en particulier au regard de la xénophobie ou du racisme. Voilà donc nos trois amis qui arrivent et qui vont susciter une longue et passionnante confrontation d'idées. Ces trois amis, on peut difficilement les identifier. Eliphaz, c'est celui qui considère que Job a perdu foi en la doctrine de la rétribution, c'est-à-dire en cette doctrine qui veut que si vous faites bien, vous recevez du bien, si vous faites mal, vous recevez du mal. Bildad, lui, soutient, ou s'oppose en tout cas à un Job qui pour lui ne croit plus en la vie après la mort, qui ne croit plus en la récompense dans un monde futur. En fait, étymologiquement, Bildad, c'est un promeneur. Et donc, il promène Job, non seulement sur cette terre, mais aussi sur un au-delà. Enfin, Tsophar considère que la providence existe. Et la providence rend toutes les choses possibles. C'est-à-dire qu'un juste peut souffrir et qu'un destructeur ou un méchant peut vivre un moment de bonheur. Et c'est pour cela que, pour quelqu'un comme Tsophar, il est inutile de chercher à comprendre la sagesse de Dieu, qui de toute façon apparaît toujours comme arbitraire. En fait, Tsophar, c'est un gendarme dogmatique. C'est un gendarme du dogme de l'impénétrabilité des voies de Dieu. Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que au fond, ces trois amis, ces amis qui dialoguent là maintenant avec Job, incarnent une société ou la société que la chute de Job trouble et inquiète. Si Job est innocent, cela veut dire que l'ordre social peut être à tout moment remis en question. Et c'est pour cela que tous les trois vont essayer de lui faire avouer une faute cachée. Autrement dit, est-ce que Job a changé, puisque par rapport à sa période faste, ou bien est-ce qu'il donnait le change? Qu'intéressant de remarquer aussi, c'est que l'arrivée de ses amis, il ne se précipite pas, il s'arrête au loin. De loin, nous dit le texte, ils levèrent les yeux et ne le reconnurent point. C'est un verset terrible, parce que cela suppose que Job est devenu méconnaissable. Les trois amis vont rester avec lui 7 jours et 7 nuits sans rien dire, 7 jours sans parler. Certainement, avec leur conception du monde, qu'ils étaient venus avec des discours tout prêts. Mais devant la souffrance qu'ils constatent, ils ne peuvent pas les prononcer. 7 jours, dans la Bible, cela représente un cycle complet. Il y a par exemple 7 jours pour le deuil, mais aussi 7 jours pour le mariage. 7 jours, c'est un peu comme si on laissait passer l'espace d'une vie avant de tourner la page. Ce n'est qu'après ce moment que Job va parler. En attendant, les trois amis mettent la souffrance de Job à distance. La souffrance de Job qu'ils observent, la douleur de Job qu'ils observent n'est pas la leur. Et c'est bien ce qu'ils vont annoncer et discuter avec Job. Job a réussi à se taire durant 7 longs jours. Et il va largement se rattraper et parler d'abondance. Intéressant de constater que dans ce livre, Eliphaz, Tsophar et Bildad, à eux trois, parlent durant 8 chapitres. Le quatrième ami, qui va venir un peu plus tard, Éliou, parle à lui seul durant 8 chapitres également. L'intervention finale de Dieu s'étend sur 4 chapitres. Quant aux différents discours de Job, eux, ils constituent l'essentiel de la matière du livre avec 21 chapitres. En fait, Job va dire énormément de choses. Il va parler de la vie, de la mort. Il va parler sur la souffrance, sur la justice, sur l'ingratitude, sur l'amitié, sur le pouvoir, sur la fragilité. Le livre de Job est en fait un véritable manuel de philosophie. Mais tout ce que va dire Job, semble déjà en partie exprimé dans le terrible discours de chapitre 3 qu'on va entendre maintenant. Et ce chapitre 3 qui constitue son premier cri. Et dans ce chapitre, Job va développer 3 thèmes. Tout d'abord, il va maudire la vie. Et puis, il va faire l'apologie de la mort. Et enfin, il va dénoncer l'absurdité de la condition humaine. Écoutons maintenant le chapitre 3 du livre de Job. Enfin, Job ouvre la bouche. Il maudit son jour. Soyez perdus, jour où j'ai vu le jour et nuit, et qui a dit : un garçon va naître. Jour, fais-toi nuit. Éloi, ne le produis pas. Clarté du ciel ne l'atteint pas. Réclamez le jour, tombe d'ombre, nuage, écrasez-le, éclipse, terrifie-le. Nuit, prends cette nuit qui parade parmi le jour et des annales, efface-la. Dessèche-toi, nuit, dans laquelle on m'a conçu, étouffe les cris de bonheur, révoquez-la, révocateur des jours futurs, invocateur du Léviathan. Nuit, noie les astres du matin, attends l'aube sans voir de jour sous ses paupières. Car la nuit n'a pas clos les portes du ventre ou protégé mes yeux de la souffrance. Pourquoi ne m'a-t-on pas tué dans l'œuf et sorti mort du ventre? À quoi bon 2 genoux qui s'ouvrent? À quoi bon 2 seins à téter? Aujourd'hui, je serai couché, Je dormirai en paix avec ces rois et ministres du monde qui s'élèvent des mausolées ou ces princes qui ont de l'or et de l'argent plein leurs caveaux, ou comme un fœtus que l'on jette inexistant comme on murmure. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit son jour. Au fond, Job dit ce qu'il a à dire. S'il s'exprime, c'est uniquement parce qu'il ne peut plus faire autrement. C'est parce que le moment est venu pour lui que le verbe éclate et déchire le silence. Réalisons que parler soulage. La parole brise l'abcès de la souffrance. D'autant qu'on ignore dans quelle mesure Job avait réellement conscience de sa souffrance. Peut-être lui échappe-t-elle pour une part. Job ouvrit la bouche. Le verbe ouvrir n'est pas l'ami innocemment. Il signifie littéralement la porte. C'est comme dire que une porte s'ouvre. Il faut que Job ouvre la porte du langage. Job ouvrit la bouche et il maudit son jour. Et il s'en prend d'ailleurs aussi au jour de sa naissance, et même à la nuit où il fut conçu. Que disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit « un homme a été conçu ». Il est étonnant de voir que Job s'attaque au jour de sa naissance comme si ce jour était un être vivant. Et il souhaite que ce jour disparaisse. C'est là une idée poétique. Tant que nous vivons, le jour de notre naissance vit en nous. En attendant, en souhaitant que ce jour disparaisse, Job se livre à une tentative impossible, désespérée, pour faire que le passé n'ait jamais existé. Mais bien évidemment, on ne peut pas rayer les jours du calendrier. C'est une initiative qui existe dans certaines dictatures ou à travers certaines initiatives qui sont en soi dictatoriales. On tente par la violence d'extirper le passé, on change les fêtes, on débaptise les rues, et parfois même, et on l'a vu récemment, on brise les statues. Job souhaite extirper le passé, il voudrait faire en sorte qu'il n'ait jamais eu lieu. Et il ne se contente pas de déplorer sa naissance, il va plus loin. Il en veut aussi à la nuit où il a été conçu. À travers la nuit, Job vise Dieu. Dans la tradition hébraïque, et en particulier dans le Talmud, ce sont trois êtres, et non deux, qui sont associés à chaque naissance. Le père et la mère, bien sûr, mais aussi Dieu. Job, lorsqu'il maudit le jour de sa naissance et la nuit où il fut conçu, Job dit à Dieu: si tu interviens pour donner la vie, tu peux aussi intervenir pour l'empêcher d'apparaître. Et à travers ce reproche, il reproche à Dieu de ne pas être intervenu dans son cas, de ne pas l'avoir retiré quand il était encore temps du ventre de sa mère. Souvenons-nous, sa femme lui avait dit « meurs » et Job l'avait rejeté, il l'avait rébroué. Il l'avait refusé, bien sûr. Et maintenant que sa souffrance a eu le temps de prendre corps, Job va beaucoup plus loin qu'elle. Il voudrait effacer jusqu'à sa conception. On pouvait comprendre la femme de Job. Devant certaines souffrances, la vie paraît et semble insupportable. Il n'y a plus d'espoir. Le futur n'a aucun sens. En tout cas, il est d'avance gâché, détruit. Mais le passé, peut-on et doit-on d'un seul coup renier tout son passé par dégoût du présent? Quoi qu'il en soit, toute tentative de nier le passé est vouée à l'échec. Peut-être qu'on peut supposer que Job est obsédé par la nuit et ne songe qu'à y retourner. Au fond, la nuit du ventre maternel n'aurait jamais dû s'ouvrir pour lui donner le jour. Le jour, c'est la vie. La nuit, c'est la mort. Au fond, ce que veut Job, c'est que cette nuit n'ait jamais vu le jour. Là se calment les criminels, là les épuisés se reposent, là les forçats sont un lieu sûr, sourds à la voix de leur geôlier, là sont le grand et le petit, l'esclave affranchi de son maître. Pourquoi donner le jour à des souffrants, la vie à des êtres amers? Ils attendent la mort et rien. Ils vont déterrer son trésor, ils sont fous de joie, ils jubilent quand ils atteignent à la tombe. Car l'homme ignore son chemin, Éloi lui met des œillères. Comme pain, je n'ai que des plaintes et ce flot de rugissement. J'ai peur de la peur qui me gagne, ce qui m'épouvantait arrive. Je n'ai ni répit, ni repos, ni paix. J'accueille le chaos. Quand on entend cette seconde partie du premier discours de Job, on est déconcerté. Job nous y propose en effet une vision idyllique du tombeau. C'est ce qui fait qu'elle est difficile à comprendre. Passe encore que Job ait souhaité n'être jamais né. C'était son souhait. Mais qu'un homme désespéré puisse appeler de ses voeux l'arrivée de la mort, cela est déconcertant. Et puis, ce que fait Job, c'est qu'il décrit la vie d'autotombe de façon surprenante. Pour lui, la tombe, c'est d'abord un lieu de luxe, un lieu bien fréquenté, bien famé. On peut y fréquenter les grands de ce monde. Et en plus, les différences sociales sont abolies. Et là, il n'y a plus ni maître ni esclave, ni gardien ni prisonnier. Là, les méchants cessent leur agitation et là se reposent ceux qui sont à bout de force. De même, les captifs sont en paix et n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, on trouve le petit et le grand et l'esclave, libérés de son maître. Job nous décrit le plaisir de mourir. Exalter la mort de cette façon, c'est tellement contraire non seulement aux religions, mais aussi aux philosophies, que de telles affirmations sont proprement inconcevables. À y être très attentif, il y a plusieurs façons de lire ce texte. La première consiste à penser que ce texte ne concerne finalement pas la mort, mais la vie. Autrement dit, Job se sert d'une délirante apologie de la mort pour critiquer la vie, en montrant qu'il est un lieu où n'existent pas toutes les choses affreuses qui caractérisent l'existence humaine, à savoir l'inégalité, l'injustice. Job porte un jugement extrêmement décapant sur nos sociétés. Et sur l'homme aussi, bien sûr. Et cette lecture, c'est un jugement à peine déguisé du délire morbide qu'il faut retenir, et non pas la description d'une vie paradisiaque dans la tombe, qui au fond, pour Job, n'est qu'une habile manière de dénoncer la vie. En dénonçant la vie, il veut dire tout simplement que notre monde est absurde, que notre monde va à l'envers, il est renversant. À travers les versets que nous avons entendus, à travers leur lyrisme, Job laisse percer sa souffrance. Il nous confie ce qu'il pense du monde. Cela fait penser à ceux qui, pendant la guerre d'Espagne, criaient « Vive la mort !» les phalangistes de Franco. C'était tout aussi insensé. D'ailleurs, nous pourrions prendre le temps de raconter ce qui s'est passé en octobre 1936, à l'université de Salamanque, le jour de la rentrée universitaire, le jour très précisément de la race, qui était ce jour particulier en hommage à Christophe Colomb. L'université était remplie de phalangistes, de franquistes, qui criaient tous en levant le bras: Vive la mort, vive la mort! Invité par Franco en personne, Miguel de Unamuno, qui dirigeait, qui était recteur de l'université, a pris la parole devant le héros du moment, qui était un blessé de guerre, le général José Millán Astray, qui était le fondateur de la Légion étrangère, Légion de sinistre mémoire. Et José Millán était aussi le chargé de la propagande de Franco. C'est lui qui avait lancé ce cri: Vive la mort! Voici ce qu'a dit Miguel de Unamuno à la tribune. Vous attendez tous ce que je vais dire. Vous me connaissez et vous savez que je ne peux pas garder le silence. Il y a des circonstances où se taire, c'est mentir. Car le silence peut être interprété comme un acquiescement. Je viens d'entendre un cri nécrophile et insensé. Vive la mort! Et moi qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes qui ont soulevé l'irritation de ceux qui ne les comprenaient pas, je dois vous dire en ma qualité d'expert que ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Millán Astray, ici présent, est un infirme. Disons-le sans arrière-pensée discourtoise. Il est invalide de guerre. Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup trop d'infirmes. Il y en aura encore plus si Dieu ne nous vient pas en aide. Je souffre à la pensée que le général Millán Astray pourrait fixer les bases d'une psychologie des masses. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes recherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui. Vous profanez le temple de l'intelligence dont je suis le grand prêtre. Oh, il n'y a pas de doute, vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas, car pour convaincre, il faudrait que vous persuadiez. Vous vaincrez, parce que vous possédez plus de force brutale qu'il n'en faut, mais vous ne convaincrez pas, car pour convaincre, il faudrait que vous ayez des arguments. Or, pour cela, il vous faudrait avoir ce qui vous manque, la raison et le droit avec vous. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser. J'ai terminé. Évidemment, Unamuno est sorti sous les insultes et les saluts fascistes. Vive la mort, vive la mort. Du jour au lendemain, il a tout perdu, son poste de conseiller municipal de Salamanque, sa position de recteur de l'université, sa réputation et même jusqu'à sa liberté. Plus personne ne pouvait lui adresser la parole. Et cela dura 3 mois, puisque à la fin de l'année, 3 mois plus tard, le 31 décembre, il décédait. Pour revenir à Job, considérons que contrairement au phalangiste de Franco, il n'aime pas vraiment la mort. Simplement, il n'aime plus la vie. Ou plus précisément, la vie semble avoir cessé de l'aimer. Et c'est donc le dépit qui le fait parler. Et comme pour humilier la vie, comme pour se venger d'elle, cela l'amène à parer la mort des plus riantes couleurs. Mais en fait, ne nous y trompons pas. Ce n'est pas la mort qu'il célèbre, c'est le non-être. Pour lui, la meilleure des solutions aurait été de ne pas être né du tout. Mais comme on est né, comme on n'a pas le choix, alors autant rechercher la mort. Ce n'est pas après avoir mûrement réfléchi qu'il s'exprime ainsi, c'est plutôt dans un mouvement de colère. S'il s'exprime dans ce sursaut de peine et de rage que l'on va trouver non seulement dans ce chapitre, mais dans tous ses discours. En fait, il crie. C'est le cri d'un homme qui souffre. C'est le cri d'un homme dont les pensées s'entremêlent dans la plus grande désordre parce qu'elles n'obéissent plus qu'à une seule logique. C'est bien celle de la souffrance. Là, les méchants cessent leur agitation et là se reposent ceux qui sont à bout de force. De même, les captifs sont en paix et n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Job parle bien d'un monde où les prisonniers n'entendent plus la voix du bourreau, où petits et grands sont égaux, où l'esclavage n'existe plus. Mais c'est pour en revenir à son propre cas. C'est pour exalter encore plus de véhémence dans sa plainte. On trouve chez beaucoup de théologiens, chez beaucoup de philosophes, l'idée que le monde futur compensera, ou tout du moins récompensera, ce qui n'a pas pu être obtenu sur la terre. Convenons que cette doctrine présente de graves dangers dans la mesure où elle peut pousser l'homme à fuir ses responsabilités terrestres. Nous savons très bien que certaines religions prêchent la résignation parce que, précisément parce qu'il n'existe ou qu'il existe un lieu où petits et grands seront égaux pour l'éternité. Et même mieux, où les pauvres auront le pas sur les riches. C'est une doctrine à haut risque. La consolation légitime et l'espérance nécessaire se sont trop souvent traduites dans l'histoire par la passivité et l'acceptation de l'injustice. Tout ce que nous avons à faire ne peut être accompli qu'ici-bas. Mais Job, lui, dans sa douleur et sa souffrance, n'en parle pas, parce qu'il croit, il est convaincu désormais, que agir n'a plus de sens. Quelque part, il en oublie ce que dit le psaume 115, au verset 15, Les morts ne louent jamais, ne louent pas l'Éternel. Si nous voulons comprendre mieux que tout ce que Job attend de la mort, il nous faut lire attentivement le verset 23. Pour l'homme dont le chemin est caché et qu'Éloi enferme de tous côtés. Ce verset nous dit simplement que pour Job, la vie est une prison. Il nous dit que la route est coupée, que l'homme est cerné par Dieu de tous côtés et qu'il a construit autour de lui une sorte d'enclos. Ainsi, la vie est close. C'est étonnant ce que dit là Job. Souvenons-nous, il fait écho au Satan. Satan disait à Dieu, « Ne l'as-tu point entouré d'une haie, lui, sa maison et toute sa fortune ?» Il est étonnant d'entendre que Job reprend la même expression, mais pour dire cette fois que ce mur, c'est en vérité le mur d'une prison. Job nous pose la question de savoir si, aussi vaste que soit le monde, au fond, d'une certaine manière, peut-être que nous y sommes enfermés. C'est un des grands thèmes classiques de la littérature. L'homme est peut-être déjà enfermé d'abord dans le ventre de sa mère, ensuite dans sa famille, dans sa société, dans un travail, dans une fonction, et puis finalement dans sa tombe. Ce qui veut dire que nous n'irions que de prison en prison. Cette question que nous pose Job, il nous faut la penser. De fait, si nous allons de prison en prison, c'est bien pour accomplir la mission particulière qui est celle de notre existence, à savoir non seulement nous libérer, mais aussi, surtout, libérer les autres prisonniers. Affranchir ses compagnons de cellule, ouvrir les portes pour pouvoir libérer les autres et soi-même. Encore faut-il savoir et comprendre que nous sommes dans une prison. Il est intéressant de comparer cela avec le mythe de la caverne de Platon. Regardons combien, après avoir déploré d'être né, puis soupirer après la mort, voilà que Job s'invente une vie, ou plutôt une autobiographie pour le moins suspecte. Nous avons cela au verset 25 et 26. Car j'ai eu une peur atroce et cela m'arrive. Ce que je redoutais vient à moi. Je n'étais plus serein, je n'étais plus calme, je ne me reposais plus. Et voilà que le tourment est venu. Il est extraordinaire de voir que cet homme, que la Bible nous décrivait comme nageant dans le bonheur, cet homme prétend maintenant avoir toujours vécu dans l'angoisse. C'est troublant d'entendre Job nous dire qu'il n'a jamais connu la paix, lui qui était tellement entier, tellement paisible, au point que le Satan s'est jeté sur lui pour le briser. C'est parce qu'à présent, il regarde déjà son passé à travers un prisme tragique. Et tout d'un coup, il se ravise, il change d'opinion sur sa vie. Peut-être qu'il réalise que sa paix n'était pas une paix véritable. Peut-être que sa sérénité n'était pas fondée. Peut-être que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, en fait, ne lui appartenait pas. Tout le long de ce chapitre, Job exprime à sa manière une vive critique de l'action créatrice de Dieu. Il y a chez Dieu un manque. C'est le manque de permettre qu'un être puisse être voué au malheur. Pourquoi la vie, effectivement, si l'homme ne voit plus le chemin, si Dieu lui a barré toutes les issues, comme nous l'a si bien dit le verset 23. Pour Job, tout est bouché. La souffrance a fait son œuvre. La dépression et son cortège de pensées noires ont pris toute la place. Job se représente la vie comme une route qui se dirige vers l'horizon. Désormais, cet horizon recule à mesure qu'il avance sur le chemin. L'horizon est bouché. Les brumes de l'existence confinent l'homme à l'arrêt. Alors, effectivement, la vie perd son sens, puisque nous sommes faits pour la route. Ce qui est étonnant aussi, c'est ce constat final. Je n'ai plus ni paix, ni relâche. Les tourments sont venus, j'ai perdu le repos. C'est tout le verset 26. Job fait allusion à sa vie passée, à sa situation d'homme riche et puissant qui lui avait apporté le repos. Le voilà maintenant plongé dans une vie d'errance. Il y a derrière ce raisonnement une réelle incompréhension des desseins divins. Lui, Job, le juste, est plongé dans les ténèbres alors qu'il vivait dans la lumière. L'homme juste, l'homme de foi, est devenu l'homme des questions. C'est la souffrance et la douleur qui ont produit cette mutation.